Je vous invite à ouvrir le Saint-Livre. Bonsoir, frères et sœurs. Nous allons faire une lecture dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 27. Nous lisons « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Amen. » Le titre de ce message, c'est « Digne de l'Évangile ». Et nous allons voir ensemble, au travers de ces quelques versets, comment l'apôtre Paul nous emmène à marcher d'une manière digne de l'Évangile. L'apôtre Paul est dans un contexte, une situation difficile, vous le savez sûrement, lorsqu'il écrit cette épître, ces quelques versets, il est en prison. Pourtant, vous savez que l'épître aux Philippiens est appelée l'épître de la joie. Au travers de tous les chapitres, de tous les versets, nous pouvons y voir la joie que procure l'intimité, la vie avec le Seigneur Jésus-Christ. La joie dans la souffrance, dans le service, dans la foi, bien évidemment, dans le don que nous pouvons avoir et nous donner aux autres. L'apôtre Paul savait et avait conscience que la vie chrétienne n'était pas toujours facile. L'apôtre Paul savait pertinemment qu'on pouvait rencontrer des épreuves, des difficultés, qu'on devait en rencontrer, que ce n'était pas une option, que ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait choisir. Mais finalement, lorsqu'on considère la parole de Dieu, et l'apôtre Paul en parle largement, les épreuves sont nécessaires même à notre formation spirituelle. Un verset juste avant, et je vais vous le lire dans une autre version, peut exprimer ce que je partage pour introduire ces instants. C'est Paul qui parle. « Comme je suis certain de cela, je sais que je resterai, que je demeurerai avec vous tous pour vous aider, à progresser et à être joyeux dans la foi. » Et le message que l'apôtre Paul était en train de passer aux chrétiens, de Philippe, des environs, et à nous ce soir, bien évidemment, c'est que nous pouvons être chrétiens, nous pouvons avoir la foi, et nous pouvons être joyeux. C'est une bonne nouvelle. Nous pouvons avoir cette joie d'être chrétiens. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous pouvons vivre cette joie. Nous pouvons expérimenter cette joie. Il y a beaucoup de choses, et on le sait, qui peuvent nous enlever la joie pourtant. Et ce soir, si on faisait un petit peu le tour de la journée que nous avons passée, de la semaine dernière passée, du mois passé, peut-être que beaucoup ce soir pourraient dire mais il y a des choses qui sont là qui m'ont retiré cette joie. J'ai pas su garder la joie du salut. J'ai pas su continuer à me réjouir en étant chrétien. J'ai pas su me réjouir sur le fait que j'étais sauvé. Est-ce que ça peut arriver d'en arriver là? Oui. L'apôtre Paul le sait, le savait. Et je pense qu'il nous donne une manière de nous comporter, nous invite en tout cas ce soir à nous saisir d'une manière d'être et de marcher pour que nous puissions arriver à être dignes de l'Évangile. Il y a ce verset extraordinaire et on le connaît quand on tourne vers lui les regards, donc vers Dieu, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. On le connaît et on sait que si c'est une réalité de regarder le Seigneur et d'être rempli de joie, on sait aussi que si on détourne nos regards de lui, on peut ne plus être dans la joie. C'est un fait. Et l'apôtre Paul je le pense, en tout cas les Écritures nous le montrent, qu'il voulait que les chrétiens, nous ce soir, je le répète, nous puissions arriver à une certaine maturité spirituelle. C'était ça qui était important, parce qu'il va en arriver à ce qui nous intéresse ce soir particulièrement, de dire, mais voilà, une autre version l'exprimera comme ça, quoi qu'il en soit, soit que je vienne, ou soit que je ne vienne pas, soit que je reste absent, sous-entendu, ce n'est pas ma présence qui doit vous apporter la joie, ce n'est pas ma présence qui doit influencer votre maturité spirituelle, ce n'est pas ça. Quoi qu'il en soit, que je sois là ou que je ne sois pas là, vous avez un devoir, si je puis m'exprimer ainsi, vous devez avoir une manière de marcher qui doit être digne de l'Évangile. Et c'est là la maturité spirituelle que nous devons avoir. L'apôtre Paul voulait peut-être appuyer sur le fait que notre joie doit uniquement dépendre de notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, il y a la communion fraternelle, bien sûr, il y a l'Église, et on doit être joyeux de venir à l'Église. On doit être dans la joie de voir un frère, une sœur, de parler, de s'entretenir ensemble, de partager des sujets, de prier ensemble, bien évidemment. Mais l'apôtre va un petit peu plus loin en disant, mais finalement, au-delà de tout cela, même si je ne suis pas présent, vous pouvez vous exprimer d'une manière spirituelle, avoir cette maturité qui va faire que vous allez pouvoir marcher, être des chrétiens qui vont être dignes. Et c'est ce que nous allons voir ce soir, qu'est-ce que cela signifie être finalement digne de l'Évangile. Avant d'aller un petit peu plus loin, je vais faire un petit détour, parce que vous avez remarqué comme moi, sûrement dans le texte, que l'apôtre va préciser quand même de quel évangile il s'agit. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à cela. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Ça vous a jamais surpris de lire cela? Parce que l'apôtre Paul sait. C'est le même homme qui a écrit aux Galates, c'est le même homme qui a écrit aux Corinthiens. Voilà, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile, bien évidemment, on le sait, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ça, c'est ce qu'il va dire aux Galates. Aux Corinthes, il parlera même d'un autre Jésus, en disant qu'il y a des personnes, voilà, le piège, on pourrait dire comme cela, qui pourrait être le nôtre, qui sommes les chrétiens modernes, qui sommes les chrétiens de la fin des temps, c'est finalement les mêmes pièges qu'ont pu connaître nos pères dans la foi, les chrétiens de Galate, de Corinthe. Il y peut sembler qu'il y a un autre évangile, sembler qu'il y a un autre Jésus, sembler qu'il y ait un autre esprit même. L'apôtre Paul va jusqu'à là, en disant, mais voilà le problème, c'est que si cela se présente à vous, vous le supportez bien. Et on comprend que le chemin qui nous mène vers cette maturité spirituelle, qui nous aide à marcher d'une manière digne de l'Évangile, c'est bien évidemment, et c'est la base, c'est le socle, mais il m'a semblé nécessaire de parler de ça, le chemin qui nous amène vers cette maturité quand même, c'est l'Évangile, c'est Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, et vous le savez aussi bien que moi, on peut rencontrer des églises qui prêchent un évangile sans Christ, qui parlent d'un esprit sans l'Esprit de Dieu, qui parlent de la croix, mais sans Jésus-Christ, sans le Sauveur. Et ça vient déséquilibrer la vie spirituelle. Ça ne peut pas fonctionner. Et vous le savez aussi bien que moi, c'est le temps de la fin, l'Église est en danger, mais l'Église n'est pas condamnée. Et nous qui sommes là, nous, comme un frère l'a dit dans sa prière tout à l'heure, si vous étiez là, nous qui désirons avoir de l'huile dans notre lampe, nous devons quand même rappeler à notre mémoire, rappeler à notre esprit, rappeler à notre âme tout entière que dans tout ce que nous pouvons faire, dans tout ce que nous pouvons traverser, dans tout ce que nous pouvons même apprendre, il n'y a toujours qu'un seul Christ, qu'un seul évangile, qu'un seul esprit, et c'est l'Esprit de Dieu, l'Évangile de Christ. Et si nous sommes tentés d'entendre, d'écouter des choses qui nous écartent de cette base-là, nous sommes en danger et nous devons revenir vers ce chemin qui a été tracé et qui est notre chemin. Digne, vous savez, ça a une signification. Et là, c'est ce qui nous intéresse particulièrement pour ce soir. Lorsque nous lisons « Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile », on pourrait traduire « digne » par « avoir le poids d'une autre chose de la même valeur ». Ou alors, et peut-être vous allez plus le comprendre, « conforme ». Et « conforme », ça veut dire « qui conserve les angles ». Et là, vous voyez où je veux en arriver. L'apôtre souligne l'Évangile de Christ. Parce que, frères et sœurs, c'est Jésus qui doit être notre modèle. C'est Jésus qui doit nous guider, nous diriger. C'est sa parole qui doit nous instruire. Ce n'est pas le monde. Et l'apôtre Paul est en train de dire, voilà ce qui va pouvoir faire que vous soyez matures d'un point de vue spirituel. Voilà ce qui va pouvoir vous amener à remporter des victoires, à passer des temps de souffrance, puisque quand même il est question de souffrance. Voilà ce qui va vous amener à être dans l'unité. Voilà ce qui va vous amener à faire la différence dans le monde. C'est que, et peut-être vous allez davantage le comprendre, c'est que vous soyez des copier-coller de Jésus-Christ. Conformes, qui conservent les angles. Sous-entendu, on prend un carré, on recopie un carré. On ne prend pas un carré pour en faire un rond. Et ça peut paraître enfantin même, ce que nous partageons ce soir, mais combien de personnes, combien de chrétiens, combien de chrétiennes sont tentées d'arrondir les angles quant à la parole de Dieu ? Combien de fois même dans notre propre vie, nous avons été tentés de dire « oui, la Bible dit ceci, mais finalement, est-ce qu'aujourd'hui, ça ne voudrait pas dire autre chose ?» Oui, c'est vrai, la Bible, Jésus nous enseigne qu'on doit souffrir, que c'est normal de souffrir, que c'est normal d'avoir des tribulations, c'est normal de passer des tempêtes. La Bible nous dit ça, mais peut-être, Seigneur, est-ce que je ne pourrais pas éviter cela. Ça, c'est, il y a un carré et on en fait un rond. Mais l'apôtre Paul, et je le répète, excusez-moi, nous engage ce soir dans notre manière d'obéir, dans notre manière de percevoir l'Écriture, dans cette conformité parfaite avec Jésus-Christ. Ce n'est pas mettre la barre trop haute. Parce que si c'était impossible, Dieu ne nous le demanderait pas. Et si c'était impossible, Dieu ne nous demanderait pas de prendre ce chemin. Vous êtes d'accord avec moi, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que Dieu nous demande quelque chose que nous ne puissions faire. Si Dieu nous appelle à avoir le même poids, la même valeur que son évangile, que la bonne nouvelle, la même valeur, puisque Christ est en nous, nous devons aspirer à cela pour que, en tout temps, en toutes circonstances, ce qui prédomine dans notre existence, dans notre vie, ça soit la volonté, le désir qu'on ait le souci même de se dire « Mais là, qu'est-ce que Jésus aurait fait ? Mais là, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ? Mais là, comment réagir par rapport à mon témoignage, par rapport à ma vie spirituelle ? Quel témoignage je donne autour de moi ? C'est cela, marcher d'une manière digne de l'Évangile. » On pourrait même aller un peu plus loin, on se souvient. On peut le lire, s'il vous plaît, même dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 8. Alors, on peut lire à partir du verset 3. C'est le verset 5 qui nous intéresse, mais pour qu'on puisse comprendre. Vous allez voir que c'est la même pensée qui est exprimée. Ça nous permet d'étayer un peu les propos. Hébreux, chapitre 8, verset 3. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Et c'est le verset 5. Lesquels célèbrent un culte, une image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et voilà ce qu'il était dit. Et soin, lui fit-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été monté sur la montagne. Et soin de faire tout d'après le modèle. Et frères et sœurs, c'est vrai que ça peut être un enjeu important. Ça peut être quelque chose qui peut sembler compliqué, mais ô combien nécessaire de comprendre que ce que nous devons faire, on ne doit pas, alors je vais le dire comme ça, c'est peut-être un peu maladroit, mais on ne doit pas l'inventer. Il y a la révélation qui est possible, vous savez. Il y a une intimité qu'on doit avoir avec le Seigneur qui n'est pas toujours évidente lorsque on travaille, on a des horaires difficiles, compliqués, lorsqu'on est épuisé, on a quelquefois peut-être pas la force de prier, de lire sa parole et on peut se faire prendre au piège ainsi. Mais frères et sœurs, la question qu'on pourrait se poser, c'est qui ce soir a envie de monter sur la montagne pour entendre et pour prendre de ce modèle divin, pour pouvoir le refaire et marcher ainsi dans sa vie. Ce qui doit nous interpeller, et c'est une question peut-être que nous devons nous poser ce soir, c'est quel est mon modèle ? Qui est mon modèle ? Comment est-ce que je marche ? Comment est-ce que je me conduis en tant que chrétien, en tant que chrétienne, en tant que fille et fils du royaume des cieux ? Est-ce que finalement je fais ce que je veux ? Est-ce que peu importe, du moment que je vais à l'église une fois dans la semaine, ça va, j'ai ma conscience ? Est-ce que j'arrondis un peu, excusez-moi d'y revenir un instant, est-ce que je crée mon propre mélange entre le monde et la parole et le Seigneur et je me contente ainsi ? Est-ce que j'ai peut-être abandonné le chemin de la montagne parce que j'ai pris le modèle il y a bien longtemps et aujourd'hui ce n'est plus ainsi pour moi dans ma propre vie ? Je reste sur des expériences passées mais qui ne se renouvellent pas. Je reste sur une lecture passée, mais qui ne se renouvelle pas. Et ce qui doit vraiment nous questionner, nous interpeller ce soir, c'est de dire, mais peut-être de dire, Seigneur, c'est vrai, ça fait trop longtemps que je ne suis plus allé sur la montagne pour que tu me montres le modèle, pour que tu m'emmènes à regarder comment a été Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait ? Comment est-ce qu'il a réagi ? Est-ce que je dois pardonner ? Oui, on doit pardonner. Est-ce que je dois aimer ? Oui, on doit aimer. Est-ce que je dois ? Et la parole est assez claire, frères et sœurs. Et on doit comprendre que Jésus désire plus que nous montrer le chemin, nous révéler des choses. Je crois que c'est une sœur qui priait pour les pasteurs. Qui puisse connaître les secrets. Et c'est bien, merci. Et c'est important de connaître les secrets. Je crois que c'est Job chapitre 15 qui dit « Mais as-tu reçu les confidences de Dieu ?» Il est beau ce verset. « As-tu reçu ?» Et la sœur priait pour que les pasteurs puissent recevoir cela. Mes frères et sœurs, chacun ici présent, on peut recevoir des secrets de la part de Dieu. Chacun, on peut avoir une direction. Parce que le modèle, c'est Jésus-Christ, mais c'est le modèle pour tous. Et bien sûr, on peut aller plus loin, parce que nous-mêmes, nous pouvons être des modèles, et nous devons être un modèle, mais quand même, on doit être un copier-coller, tendre en tout cas vers cela, d'être un copier-coller vers l'évangile de Christ, vers la bonne nouvelle et vers Jésus-Christ. L'apôtre Paul pourra dire dans son épître aux Colossiens, on peut le lire ensemble, c'est Colossiens, on a un peu de temps, Colossiens chapitre 1, verset 9. Et ça, la prière de l'apôtre Paul, ça doit être notre prière. Verset 9, « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. » On ne lit pas la suite parce qu'on y reviendra. Je dis on ne lit pas la suite et je vois tout le monde qui continue. Vous avez raison. Cette prière, ça doit être notre prière. Parce que parler de modèle, parler de marcher d'une manière digne, et c'est une expression qu'on retrouve quand même dans plusieurs épîtres. Et c'est pour cela que ça doit quand même nous interpeller, parce que c'est ce qui concernait les chrétiens, les premiers chrétiens. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on a et on doit avoir le même souci. Les mêmes interrogations de marcher selon Christ, selon le modèle, de ne pas prendre modèle sur le monde, bien évidemment. Et il y a un exemple dans la parole, je ne pense pas qu'on aura le temps de le lire, mais il y a même plusieurs exemples où des rois ont voulu copier des rois païens parce que ça ne fonctionnait pas pour eux, parce qu'ils ont lâché la main du Seigneur. Et peut-être que ce soir, on pourrait être nombreux en disant « Mais moi, je connais une personne, je connais un frère qui avait bien commencé et qui n'a pas eu les réponses à ses prières et qui n'a pas su traverser les épreuves. Alors, il a commencé à chercher la solution dans le monde. Il a commencé à aller moins à l'église parce qu'il était pris par telle et telle chose. » Et ainsi de suite, si nos yeux se détournent du modèle parfait, si nos yeux se fixent sur le monde, on ne pourra pas, frères et sœurs, avancer et on ne pourra même pas arriver à finir la course. Et ce que l'apôtre Paul dit aux Colossiens, c'est quelque chose qui doit être dans notre cœur comme une prière constante. C'est la semaine dernière, il me semble, notre frère, Monsieur de Dieu, nous parlait de la volonté du Seigneur, la volonté de Dieu. Et il y a quand même cela, « Seigneur, remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Montre-moi qu'est-ce que je dois faire. » Parce que ce qui est sûr, c'est que Dieu, lui, ne va pas se tromper. Ce qui est sûr, c'est que Dieu, lui, il va savoir nous diriger, nous amener là où lui le veut. Et je ne sais pas si vous vous souvenez l'exemple qu'il avait donné la semaine dernière sur ce couple qui voulait construire une maison et qui n'avait plus pas la paix. Ils ont attendu et 2 ans après, ils ont vu l'ampleur des catastrophes s'ils avaient construit parce qu'il y a une usine qui aurait construit. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Frères et sœurs, on a tout à gagner à se laisser conduire par Dieu. On a tout à gagner à demander au Seigneur, mais quelle est ta volonté? Quel est le modèle? Peut-être à prendre du temps pour aller sur la montagne, pour que nous puissions recevoir des secrets, des confidences de Dieu pour notre propre vie, mais aussi, et vous savez que c'est possible, peut-être pour quelqu'un, un frère, une sœur, un bien-aimé, qui a besoin de soutien, qui a besoin d'une parole qui vient du cœur de Dieu. Et ça, c'est le peuple de Dieu, c'est les chrétiens, c'est marcher d'une manière digne, conforme à l'Évangile. Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, pour nous, ça devrait être différent? On peut aussi aller de lieu en lieu pour faire du bien, alors que le monde, lui, s'enfonce dans le mal. Nous, nous pouvons montrer le chemin vers l'œuvre de la croix et vers la lumière. Pensez citer cet exemple, mais vous pouvez le lire. C'est l'exemple du roi Akaz. Ce que j'ai cité brièvement, ça se situe dans le deuxième livre des rois, au chapitre 16. Mais j'avance un peu dans le message. Il y a un but quand même. Et j'en ai un peu parlé. On reviendra à l'épître aux Colossiens. Mais il y a un but, et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Philippiens, pour revenir à notre texte de base. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent. Et voilà un des buts. J'entends de dire. Et qu'est-ce qu'on entend sur notre foi? Qu'est-ce qu'on entend sur notre vie spirituelle? Finalement, tout ce qu'on partage, c'est un peu la même chose. C'est une boucle. Ça revient toujours au même. Quel est mon modèle? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Mais qu'est-ce qu'on entend dire de moi? Est-ce qu'on entend dire que je suis chrétien, mais que je suis dans l'abattement parce que j'arrive pas à prendre le dessus, parce que j'arrive pas à me laisser consoler par Dieu, par Christ? La dernière fois, j'ai été touché parce que j'étais dans une église et il y avait une sœur qui a tout jeune convertie d'un certain âge, ça faisait 3 ans qu'elle était convertie, et elle a perdu son mari. Et elle me disait qu'elle était effondrée au début, effondrée. Et on vient à l'heure du repas, et elle se disait, mais voilà, Seigneur, comment je fais? Je suis seule, Seigneur. Je suis toute seule. Et elle était attristée, c'est normal. Et d'un coup, elle a été éclairée. En tout cas, elle a trouvé ça pour sa vie. J'ai trouvé ça tellement, tellement beau, tellement bien. Elle a dit, voilà ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'assiette, je l'ai mise à côté de moi, j'ai pris des couverts, j'ai pris le verre, et j'ai dit, voilà Seigneur Jésus, c'est toi qui manges avec moi. Et cette sœur, elle avait 3 ans de conversion, et elle m'a dit, mais à partir de ce soir-là, j'ai plus jamais pleuré. Et vous voyez, qu'est-ce qu'on entend dire? Est-ce qu'on entend toujours des pleurs sur notre vie? Est-ce qu'on entend toujours qu'on râle? Parce qu'on n'arrive pas à ceci ou à cela, parce que c'est difficile? Est-ce qu'on entend toujours des choses négatives qui sortent de notre bouche? Ou est-ce qu'on entend des paroles de grâce, des paroles de bénédiction? Est-ce qu'on entend toujours des choses qui glorifient Dieu? Est-ce que l'on entend, puisque je reviens un petit peu au thème de l'Épître, de ces versets, est-ce qu'on entend que lorsque nous sommes dans la souffrance, que nos yeux sont toujours fixés sur Jésus-Christ, que même si on ne comprend pas tout, on sait que lui, il sait comment nous conduire. Nous, notre rôle, c'est de marcher selon l'Évangile, selon Jésus-Christ. Lui, son rôle, c'est de nous bénir, de nous conduire. Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qui ressort de ma vie spirituelle? Qu'on demeure ferme, c'est ce que dit l'apôtre Paul. Je termine, je voulais juste dire cela, le citer, demeure ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme. Ça, c'est le témoignage que doit rendre l'Église aujourd'hui. Dans l'unité, c'est des choses que l'on a déjà partagées. Et qu'on soit rempli d'assurance. Je vais terminer parce que je vois que l'heure tourne et je ne voudrais pas appesantir ces instants. On va juste pour terminer, relisez l'épître aux Philippiens, relisez ces versets, regardez à chaque fois dans les épîtres qu'il est parlé d'une manière digne de se comporter par rapport à l'Évangile. Il y a Éphésiens chapitre 4 aussi qui en parle. Mais pour terminer, j'aimerais qu'on puisse retourner dans l'épître aux Colossiens au chapitre 1er, parce que c'est cela qui doit être notre vie. nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ça, ça doit être notre prière. Pour marcher, le but de la prière, d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Et voilà ce à quoi ça va nous amener de marcher d'une manière digne, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant, grandissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. C'est cela qui doit être la finalité, si je puis dire, même si c'est très restrictif dans la marche chrétienne. Mes frères et sœurs, marchons conformément à la parole, conformément à Jésus-Christ. Vous ne portez pas encore de fruits, mais soyez persévérants. Continuez, poursuivez. Il y a des saisons, et pour chaque saison, il y a quelque chose. Il y a un fruit. Il y a le fruit qui vient au temps convenable, au temps de Dieu. Vous ne voyez pas encore le fruit dans votre persévérance, dans votre constance, dans votre vie de prière, dans votre vie de piété, mais poursuivez, poursuivez, pour que au temps de Dieu, au temps convenable, les fruits soient là, pour que vous puissiez grandir dans la connaissance de Dieu, fortifiés par sa puissance. Ça, c'est la promesse de Dieu. C'est son engagement pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas que je sois fort, moi. Ce n'est pas que j'ai toujours le moral. Ce n'est pas que je ressente toujours des choses. C'est que, malgré ce que je peux penser, ressentir, la puissance de Dieu est toujours là pour m'aider à traverser les épreuves, les tempêtes, pour m'aider à marcher d'une manière digne de l'Évangile. Et ça ne dépend pas de mes sentiments, ça dépend de lui, par son esprit, pour qu'il y ait toujours la joie du salut et la joie du service, toujours et avec joie, persévérant. C'est en tout cas ce que Dieu nous promet si nous restons attachés à sa parole et que nous marchions conformément à Jésus-Christ. Amen, on prie le Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, pour la simplicité de ta parole, ce à quoi tu nous engages, tu nous encourages ce soir, et nous voulons prendre ce que tu nous dis. Seigneur, ensemble, nous voulons nous conformer à toi, à Jésus-Christ, prendre notre modèle de vie en Jésus-Christ, en ta parole. Seigneur, rejeter tout ce qui vient du monde. Et si ce soir, mon Dieu, il y a quelqu'un qui avait commencé à faire un mélange des compromis dans sa vie spirituelle avec le monde, qu'il puisse revenir sur la montagne pour que tu puisses lui montrer le modèle parfait, excellent Jésus-Christ, afin que nous puissions marcher, lutter, combattre avec toi pour remporter la victoire, que nous puissions arriver à porter du fruit. Mon Dieu, je ressens dans mon cœur que quelqu'un était découragé parce que dans son cœur, il ne voyait pas encore de fruit, parce qu'il ne voyait pas encore le fruit de ses prières. Mon Dieu, ce soir, bénis ce frère ou cette sœur afin qu'elle puisse persévérer et attendre le moment divin que tu auras prévu pour que le fruit puisse venir. Merci pour la joie qui est disponible également. Oh Père, reçois notre louange et notre adoration au siècle des siècles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.